Radio Okapi. Interface.
La République démocratique du Congo a célébré vendredi 30 juin dernier le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Si le pays sous la colonisation était une des colonies les plus urbanisées, prolétarisées et éduquées d'Afrique, actuellement la RDC se compte parmi les plus instables et pauvres du continent. Constat de plusieurs historiens en marge de la célébration de cette fête nationale. Quel héritage avons-nous conservé jusqu'aujourd'hui de la colonisation? Comment évaluer la gouvernance publique de la RDC pendant 80 ans de colonisation par rapport aux 63 ans d'indépendance? Interface reçoit dans ses numéros un témoin vivant de la gestion de la RDC depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Il s'agit de Chakulwe Konda Bunyibunyi, âgé de 93 ans aujourd'hui, retrouvé à Bukavu par Jean Kassami. Vous suivrez aussi dans cette émission le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le premier ministre honoraire Augustin Matata Mponyo, les professeurs Gaston Dido et Mokonda Bonza. À la coordination et présentation, je suis Michel Kifindangoy. Interface, c'est parti. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans Interface qui fait le bilan de la gouvernance publique de la RDC, 63 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale. Tout de suite, Actu Hebdo.
Interface.
Le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été célébré vendredi 30 juin dernier dans la méditation. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État réaffirme sa fierté de commémorer cet événement pour réitérer son attachement à ce bien précieux, la RDC léguée au peuple congolais qui a à son tour le devoir de les transmettre comme tel aux générations futures, en dépit de toute adversité. Félix-Antoine Tshisekedi.
Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester depuis 63 ans un peuple libre en dépit de toutes ces adversités. Nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance.
De son côté, dans son mot au Congolais, le premier ministre honoraire et candidat déclaré à la présidentielle prochaine, Augustin Matata Mponyo, estime que la situation de précarité de la RDC actuellement est justifiée par la mauvaise gouvernance du pays depuis son accession à l'indépendance. Augustin Matata Mponyo.
Aujourd'hui, le constat est amer. La majorité des Congolais vivent moins bien qu'en 1960. Ils ne mangent pas bien, ils étudient moins bien, ils sont mal transportés, ils sont mal soignés, ils vivent dans l'insécurité. Pire encore, ils sont moins respectés en Afrique et dans le monde. C'est dire que le rêve de nos aïeux se sont volatilisés. Si ces derniers, du fond de leur tombe, pouvaient nous interroger, ils diraient « Peuple congolais, nous nous sommes sacrifiés pour vous libérer du joug de la colonisation, afin de vous permettre de construire un Congo meilleur. Pourquoi les détruisez-vous ? La meilleure façon de répondre n'est pas de commencer à nous justifier, car nous avons échoué à bâtir un beau pays. Nous devons reconnaître notre responsabilité partagée et prendre plutôt l'engagement de repenser notre façon de gérer. Oui, le pays a été mal géré depuis l'indépendance. Oui, le pays est encore mal géré. Et si cette mauvaise gouvernance continue, il ne faut jamais s'attendre à un développement quelconque de ce pays.
Pour le professeur Gaston Dindo, la RDC n'est passée que du colonialisme au néocolonialisme, entretenu malheureusement, selon ses propres termes, par des dirigeants fils du pays. Il exhorte alors les Congolais à prendre du recul pour réfléchir comment sortir de cette nouvelle domination. Professeur Gaston Dindo le dit au micro de Jacques-Yves Molima.
La date du 30 juin, qui était une date des joies il y a des années, est devenue aujourd'hui une journée triste parce que nous n'avons pas pu bénéficier de l'indépendance qu'on a cru avoir. Nous sommes devenus aujourd'hui un peuple colonisé par ses propres dirigeants qui travaillent pour le néocolonialisme. Ils nous font venir tous les étrangers du monde pour venir exploiter les richesses de notre pays. Et nous-mêmes, les Congolais, nous n'en profitons pas, raison pour laquelle on devait plutôt réfléchir sur le voie et moyen qui peuvent nous permettre de sortir de cette nouvelle colonisation pour nous libérer de cette domination interne et externe.
Indépendance Tchatcha, c'est une chanson créée le 20 janvier 1960 par Joseph Kabasele, alias Grand Calais, et l'African Jazz. Elle célèbre l'indépendance de la République démocratique du Congo, ancien Congo belge, le 30 juin 1960. Vous êtes à l'écoute des radios Okapi qui se penchent dans ce numéro d'interface sur l'héritage de la colonisation 63 ans après l'accession du pays à l'indépendance. Quel parallélisme établir entre la vie en RDC avant et après l'indépendance, tant sur le plan social, éducationnel, infrastructurel et agricole? Notre reporter Jacques-Yves Molima nous a répertorié tout l'héritage de la colonisation, en plus des témoignages des historiens et ceux qui ont vécu à cette époque. Tout révèle qu'en dehors des libertés politiques par un petit groupe de Congolais de la lignée des anciens évolués, La vie pendant la colonisation fut nettement meilleure qu'après et elle se dégrade de plus en plus que le pays s'éloigne de son accession à l'indépendance 63 ans après. Les détails avec vous, Jacques-Yves Moulima.
Sur le plan social, avant 1950, raconte l'historien David Van Vreebrock, 40% des Congolais étaient salariés et 60% des enfants allaient à l'école. Le salaire était en pleine augmentation jusqu'en 1956 avant de régresser désormais. Le chômage paraît dans de grandes villes comme Kinshasa qui compte plus de 20 000 chômeurs. Ces derniers se font donc loger chez des proches qui ont encore des revenus. Conséquence, les maisons et les parcelles de la cité deviennent surpeuplées et des petits bars poussent depuis lors comme des champignons. Une situation qui ne fait que s'empirer jusqu'à ces jours. C'est dans cette atmosphère d'agitation qu'ont lieu les premières élections dans le Congo indépendant. Au lieu de travailler pour préserver la classe moyenne laissée par les Belges, le nouveau Parlement consacre plutôt les inégalités salariales, déplore le professeur Mokonda Bonza.
Dans un ouvrage publié par le professeur Ion Crawford, un Américain, un ouvrage intitulé « L'introduction à la politique congolaise », le professeur Ion Crawford constate que, en 1960, dès que le Parlement a été constitué, après les élections de fin mai 1960, la première décision que l'Assemblée nationale a eu à prendre, c'était de multiplier les indemnités de parlementaires par 5. Les Belges avaient prévu que l'indemnité de parlementaires, qui équivalait en ce moment-là à 100 000 francs belges, et c'était déjà une très 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 bonne rémunération. Mais les parlementaires, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont pris la décision de pouvoir multiplier par 5 leurs indemnités parlementaires. Donc, on est allé de 100 000 à 500 000. Donc, le dérapage a commencé dès 1960. Et depuis, à chaque fois qu'il y a un nouveau parlement, chaque fois qu'il y a une nouvelle législature, donc, les parlementaires font tout pour se servir, pour régler leurs problèmes et ils oublient les autres catégories socio-professionnelles.
Sur le plan de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, les Belges ont légué à la RDC des écoles et universités qu'aucun gouvernement d'après l'indépendance n'a réussi à construire 63 ans maintenant. S'insurge le président de la PUKIN. Les universités de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, qui font jusqu'à ces jours la fierté des Congolais, ont toutes été construites par les colons. C'est aussi le cas pour toutes les écoles prestigieuses du pays, ajoute le professeur David Lubu.
En matière d'investissement, je ne vois pas une université construite par les Congolais au standard de l'université de Kinshasa. Donc là, Zaïro ou Congolais, on a échoué. On a fait des décennies avec 3 universités, on a décentralisé, et bien c'est devenu la foire. Donc vous avez les instituts supérieurs qui fonctionnent, un auditoire de géographie dans un village, un auditoire d'histoire dans un autre, les DG et chefs de travaux, peut-être c'est le seul qui a la qualification, c'est vraiment la catastrophe. Les écoles secondaires que les Belges avaient laissées, mais ce sont ces écoles-là qui sont transformées en universités. Donc je crois que nous devrions nous gêner.
Sur le plan des infrastructures routières et du transport à l'accession à l'indépendance en 1960, le Congo-Kinshasa disposait d'importants atouts qui auguraient un avenir meilleur. La colonisation belge, au-delà de toute considération, avait implanté des bases du développement économique et de l'épanouissement de la population des différents territoires. C'est le cas des infrastructures routières qui assuraient la connectivité interprovinciale et l'organisation des voiries urbaines dans certaines grandes agglomérations, comme le témoigne ici Léon Moukoko, directeur de la communication à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC.
On pouvait circuler dans ce pays en voiture. L'exemple le plus célèbre, c'est le premier ministre Patrice Emery Lumumba qui allait à Kisangani avec sa voiture.
La colonisation ne nous a pas seulement légué des routes.
Il y avait des trains pour les marchandises, des trains pour les voyageurs, des trains spéciaux même, il y en avait.
Ces trains assuraient le transport de plusieurs cargaisons dans les grandes agglomérations, mais aussi la fluidité du trafic dans la capitale.
Avec le train urbain, on quittait la gare centrale pour aller à Kinshuka pour aller à Matete, pour aller à l'aéroport. C'était régulier, il n'y avait pas de problème de circulation avec les embouteillages qu'on a aujourd'hui.
63 ans plus tard.
Sincèrement, on a reculé quand même. Et pourtant, nous chantons tous les jours, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant.
Et sur le plan de la productivité industrielle, la Gécamine, appelée Union Minière du Haut-Katanga, à l'époque coloniale, était le fleuron de l'économie congolaise, avec une participation de 70% au budget national. Si par le passé, l'exploitation minière impactait positivement la vie socio-économique de la province, il n'en est rien présentement, nous raconte un ancien cadre de ces géants miniers aujourd'hui à la retraite. Ce qui a fait dire à un autre homme de troisième âge qui habite Lubumbashi, la capitale du cuivre, depuis plus de 60 ans venu de l'espace Kivu pour travailler à la Gécamine, que, à l'époque, malgré les contextes de la colonisation, le train de vie était passable comparé aux temps actuels. Parlant par ailleurs de l'agriculture, la RDC a été, dans les années 1950, premier exportateur africain d'huile de palme et second au monde. Il occupait aussi une bonne position par rapport au caoutchouc, café, cacao, maïs, thé et autres cultures pérennes. Et c'était grâce à la politique mise en place en 1910 par la Direction générale de l'agriculture au sein du ministère belge des colonies, explique Jean-Louis Efoloko, expert en planification et développement.
En 1959-60, au village, je voyais les véhicules faisaient des centaines de kilomètres pour aller ramasser des noix de palme chez les paysans. Et le paysan, en dehors de son champ, avait une recette qui provenait de la quantité de noix de palme ramassées par les huileries. Et les individus se suffisaient, vivaient dans de bonnes conditions.
Le régime colonial a ensuite développé l'agriculture industrielle, premier pilier de l'économie de la colonie. À travers le pays, de multiples plantations de palmiers, de veia, de café, de cacao, de thé, de coton, avec leurs industries connexes, ont créé beaucoup d'emplois. Mais au fil des années après l'indépendance, l'agriculture congolaise a perdu sa priorité, ses lettres de noblesse. Les multiples programmes de relance, Objectif 80, PARSA, DSRP, PRAP, n'ont été que de simples slogans, voire de sources d'enrichissement illicite. Conséquence, le secteur agricole est aujourd'hui par terre, au point que le pays qui exportait jadis importe aujourd'hui même du riz, du maïs ou de la tomate. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali muya ya population, bakonji bayoka na matoyi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tozwaki lipanda, tobongisa pe yango. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali muya ya population, bakonji bayoka na matoyi. Bato ya Congo, oye, bato ya Congo, oye, bato ya Congo, oye,
mwana Congo,
bato ya Congo, oye,
yoka lelo,
bato ya Congo, oye,
mwana Palema.
Batuya Congo est une composition de Grand Calais et Dr Nico avec l'orchestre Clan African Jazz, compli des années 1950-1960. Vous êtes à l'écoute d'Interface Radio Okapi qui se penche sur la gestion de la RDC par les Congolais 60 ans après son accession à l'indépendance.
Interface.
Nous recevons à présent Chakou Luekonda Bunyibunyi, l'un des témoins de l'événement de l'indépendance dans notre pays. Âgé de 93 ans, en 1960, il avait 30 ans. Toujours lucide, dans cet entretien avec Jean Kassami, il revient sur les avantages et les méfaits de l'indépendance. Pour lui, les attentes du peuple congolais ont été déçues depuis l'accession de leurs compatriotes à la destinée du pays. On l'écoute.
Interface.
Chakou Luekonda Bunyibunyi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
En 1960, l'indépendance va être proclamée pendant que vous aviez déjà quel âge?
On a 30 ans à ce moment-là.
Et que donc, vous avez vécu toutes les péripéties de l'indépendance?
Beaucoup.
Qu'est-ce que vous retenez de cette époque-là?
L'indépendance, c'était que nous avons quitté la colonie pour accéder à notre authenticité, notre liberté. Et que nous avons été occupés pendant un temps, et ce temps-là était un temps malheureux. Malheureux, c'est-à-dire, bon, on a fait de nous ce qu'on voulait faire de nous, et sans nous. Mais alors, en 60, nous avons été autorisés d'être encore nous-mêmes, on nous a libérés.
Lorsque vous parlez de « on », vous faites allusion à qui?
Mais je fais allusion à la colonie c'est les Belges. On nous a arraché notre âme congolaise était partie.
Le jour de l'indépendance, vous aviez 30 ans, qu'est-ce qui s'était passé?
Mais c'était une joie. Mais une joie, on ne savait pas évidemment ce qu'il fallait récupérer, ce qu'il ne fallait pas récupérer. Mais on a pris seulement la déclaration qu'on était indépendant. Mais il y a une clause qu'on a soulignée là-bas. Après l'indépendance, ça sera comme avant l'indépendance. Voilà la phrase qui accompagnait l'indépendance ce jour-là. Alors, c'est plus tard qu'on a compris ce que c'était. Donc, on a dit, nous restons toujours ici. On ne part pas. Si on part, mais on est toujours présent. Oui, effectivement, ils sont toujours présents. Ils ont continué à perpétuer ce qu'ils ont fait, bien qu'on était indépendants, mais ils ont continué la colonisation jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore décolonisés. À ce moment-là, j'étais encore élève, je finissais déjà l'école primaire, si vous voulez bien. Nous, on commençait l'école avec l'âge adulte.
Donc, vous avez vécu ces jours-là, tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce que vous gardez encore en mémoire?
En mémoire, c'est que bon, les gens étaient heureux. Et plusieurs disaient, bon, ceux qui étaient déjà des adultes, hein, étaient déjà contents, qu'ils occuperaient les places qu'occupaient les Blancs. C'était la première expression. Donc, nous allons maintenant remplacer ces gens-là. Ils sont partis, nous allons aussi être comme les Blancs. Et ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir, comment ils allaient se comporter.
Aujourd'hui, 63 ans après, est-ce que cette attente a été accomplie?
Non, malheureusement. L'attente a été déçue. On est devenu autre chose que ce qu'on devait devenir. Ceux qui ont accédé à l'indépendance, ils ont détourné l'attente des gens. Ce n'est pas ce qu'on voulait avoir qu'on a eu. À travers eux, il y a eu une déviance, si vous voulez bien. Ils se comportaient autrement. Ils ont pris ça comme une affaire à eux. Donc les gens qui étaient évolués à ce moment-là, bon, ils en ont fait leur affaire, hein, et pas l'affaire du peuple. Comme quoi, la loi belge à ce moment-là, qui était méchante contre le peuple congolais, la loi est devenue encore pire qu'elle l'était avant. L'amour qui caractérisait le peuple congolais a été toujours enterré. On n'a pas récupéré cet amour-là. Ils en ont fait maintenant leur affaire. Ils ont constitué des castes. Donc ceux-là qui ont accédé à l'indépendance du blanc, ils se sont comportés pire que les blancs se sont comportés. Alors, ils ont laissé la population en dessous des zéros. Et eux, ils sont placés au-dessus des Muzungu. Ils sont devenus plus Muzungu que des Bazungu. Et nous, le peuple, on nous a laissés dans la poubelle. Et c'était fini, malheureusement.
Là, vous faites allusion aux acteurs politiques.
Absolument, absolument. Ils sont mauvais. Les acteurs politiques ont été mauvais parce qu'ils ont remplacé la colonie par leur colonie à eux. La colonie avait des côtés forts. Si vous voulez, côté fort, ça veut dire bon, du positif. Du positif, oui. Parce qu'elle a quand même continué à instruire les peuples. On est passé de la réalité à l'écriture, n'est-ce pas, à ce moment-là. Nous aussi, on a accédé à l'écriture. C'est du positif, ça. Et ils ont effacé la culture. Vous vous rappelez de la déclaration d'encyclique du pape Jean-Paul II, celui qui vient d'être proclamé saint. Il disait, la repentance de l'Église catholique en face de l'Afrique par les premiers missionnaires qui ont détruit la culture africaine. Il demandait aussi pardon pour le peuple juif qui a connu un génocide de 6 millions de morts par les nazis. Il a cité ça. Donc vous voyez qu'il a montré aussi que le temps passé par la colonie a été la pire des périodes qu'on pouvait vivre.
Je vous remercie, Chakuloué Konda Bouni Bouni.
Mikolo to sekara kina mosolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali boya kobongisa Kongo aveni ebongi to sala ebongi to sala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo to sekala kina mosolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongi sa Kongo aveni Ebongi to sala, tebongi to sala Moto nyo so ata mwana Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya, kasa ya mbila Kongo ya makasi, moto ya nkoi Kongo, Kongo ne mboka Kongo, mboka ya bankoko Kongo, mboka mwana pamba Lobi, mboko lula yango Kongo, Kongo ya Afrika Kongo Kaya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo mbako bikisa yo
Avenir, c'est une composition de Rochero Taboulay. En marge de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Radio Okapi a demandé aux habitants de Butembo ce qu'ils pensent de la façon dont le pays a été géré depuis 63 ans. Pour certains, l'économie de la RDC ainsi que le social de la population demeure précaire à cause de la mauvaise gouvernance. Pour d'autres, l'engagement commun et la prise de conscience constituent la clé pour aboutir à un développement du pays. Le point de vue des uns et des autres dans ces vox pop réalisés par Grévis Salomou.
C'est que le pays a encore beaucoup de défis. L'indépendance que nous avons toujours clamée, c'est une indépendance qui est plutôt politique, mais économiquement, nous avons beaucoup de défis à relever parce que le pays a besoin des jeunes innovants, des jeunes qui peuvent apporter des solutions aux problèmes. Et c'est ça la vraie indépendance. Mais économiquement, nous avons beaucoup de défis et nous encourageons tout le monde à se joindre à nous pour que les défis de ce pays puissent trouver des solutions par les enfants de ce pays.
L'indépendance, en tant qu'un Congolais, nous devons nous en réjouir. Et nous en réjouir ne se limite pas seulement à festoyer dans des endroits, mais nous devons aussi pousser des réflexions. Où est-ce que nous en sommes avec cette indépendance? Est-ce que nous sommes réellement indépendants? On a été indépendants, bien sûr, politiquement, mais est-ce que sur d'autres plans, nous sommes indépendants? Est-ce que l'économie évolue? Est-ce que dans d'autres secteurs de la vie, ils évoluent?
Même si le défi est encore énorme, mais nous pensons que notre pays mérite aussi mieux que ça. Et l'indépendance, c'est aussi l'indépendance économique. Relever l'économie de notre pays, c'est nous-mêmes. Nous n'allons pas attendre la Banque mondiale, les FMI, c'est nous-mêmes d'abord.
Voici Ainsi, à la fin de notre émission Interface, produite grâce à l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Jacques-Yves Moulima, Jean Kassami, Jean Gandou, Grévis Saloumou et Paul-Richard Malengela ont participé à la réalisation de cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué et Jean-Marc Matouaki. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné et présenté. Vous pouvez suivre la rediffusion de ce numéro mercredi à 15h30 et 22h. Je prends rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro lundi prochain à 8h30. Merci de rester à l'écoute de la fréquence de la paix. Au revoir.